vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet.
Bonjour, bonsoir. Que d'applaudissements hier soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes quand on retentit les traditionnelles trompettes de Maurice Jarre. Les quelques 1960 festivaliers, confortablement installés dans une cour d'honneur flambant neuve, étaient si heureux de se retrouver pour le coup d'envoi de cette 75e édition. Ils avaient un petit peu l'impression de toucher le Graal, ces spectateurs, d'autant qu'avant d'entrer, il leur avait fallu montrer patte blanche, ou plutôt un QR code aux allures de totem d'immunité Covid, avec en fond sonore une manifestation plutôt bon enfant de quelques dizaines de personnes contre la réforme de l'assurance chômage. Mais c'était bien peu de choses pour assister à pareille fête. Reportage pour VMDN d'Alexandra Gigi.
Pour accéder à la cour d'honneur du Palais des Papes, dont la capacité avoisine les 2000 places, il faut avoir son pass sanitaire à jour. Une deuxième dose de vaccin de plus de 2 semaines ou un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures sont donc obligatoires. Pour éviter les fraudes, ce pass prend la forme d'un QR code.
Très facile, on vous le donne avec le certificat de vaccination. On le scanne sur l'appli Tous Anti-Covid et on peut voyager, on peut aller au théâtre, c'est la fête.
Les QR codes de tous les spectateurs sont ensuite vérifiés par l'équipe du festival.
On bip, si c'est vert, il rentre, si c'est rouge, on regarde ce qui ne va pas, on regarde la date.
Mais normalement, nous ne sommes pas médecins, donc on n'est pas censé savoir lire un test PCR.
Donc il y a des personnes responsables qui prennent le relais et qui vérifient que soit c'est un bug du QR code, soit le QR code n'est pas là, mais le pass sanitaire est bon. Donc ça passe.
Et certains spectateurs dont le pass sanitaire n'était pas valide n'ont pas pu entrer.
Madame a eu 2 doses, mais ça ne fait pas 14 jours qu'elle a eu ces 2 doses. Donc elle doit faire un test avant d'entrer au spectacle.
Grâce à un stand de secours qui se trouve au pied du palais, cette spectatrice va pouvoir faire un test antigénique avant de rejoindre la cour d'honneur. Avant la représentation, ce stand aura réalisé 53 tests, tous négatifs. Mais avec 15 minutes d'attente pour les résultats, certains sont arrivés trop tard pour profiter de cette solution.
C'est vrai que c'est un peu con, on s'y prend un peu tard, mais 40 balles de perdu déjà, donc 80.
Et on va aller danser.
On va aller danser, hein.
De toute façon, on n'a pas de choix, hein.
C'est ça qui va se passer, hein. Mais Isabelle Huppert, RIP, quoi. On aurait bien aimé la voir.
La majorité des spectateurs avaient tout de même pris leurs précautions en se faisant tester dans la journée en pharmacie à Avignon, selon Diane Cartoux, pharmacienne dans le centre-ville.
Il y a les personnes qui s'occupent du festival qui ont demandé quelle pharmacie voulait tester pendant le festival, donc on s'est porté volontaire. Donc plus ou moins toutes les pharmacies se sont portées volontaires, à l'exception de 2 intramuros, je crois.
Depuis ce matin, je ne fais plus mon métier, en fait. J'ai fait que ça ce matin. Je suis plus pharmacienne, je suis préleveuse, je prélève, je fais des tests. Heureusement que c'est pas toute l'année comme ça, parce que sinon je pense que j'aurais craqué.
Ce rythme devrait durer une dizaine de jours, car la Cerisaie investit la cour d'honneur jusqu'au 17 juillet.
Et à l'intérieur de la cour, le spectacle tant attendu a donc démarré avec une 40aine de minutes de retard. Un incontournable de Tchekhov, la Cerisaie, donc mise en scène par l'homme du jour, Thiago Rodriguez. Bonjour.
Bonjour.
Votre nom était vraiment sur toutes les lèvres hier à Avignon, en raison du spectacle, évidemment, mais aussi parce qu'à la mi-journée, la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé que vous serez le prochain directeur du festival, le successeur d'Olivier Py. Bref, j'imagine que vous vous souviendrez assez longtemps de ce 5 juillet 2021. Depuis hier midi, vous avez eu plein d'occasions d'exprimer votre fierté, votre joie. Vous avez dit que vous étiez désormais devant une page blanche. Alors avec quels outils, avec quelles envies, avec quelles idées allez-vous la remplir, Thiago Rodriguez ?
Le Festival d'Avignon n'est sûrement pas une page blanche. Et c'est une page bien remplie par plein d'idées, plein d'identité, et surtout par des idées et une histoire qui me passionne énormément. Depuis 1947, le parcours de cet énorme festival, que j'hésite pas à appeler le plus beau festival du monde, et me passionne. Le plus je connais le festival, le plus passionné j'y suis. Et maintenant, voilà, cette nomination hier, c'est un peu comme si on avance vers... Moi, je deviens fiancé du Festival d'Avignon, alors que j'étais juste un admirateur, un amoureux. Je pense que voilà l'équilibre qui trouve ce festival entre un projet utopique de théâtre populaire et l'exigence des formes artistiques proposées, mais aussi la façon dont il propose un espace de mémoire où on peut bâtir les laboratoires de recherche de l'avenir, sont des choses que depuis ma première présence au festival festival en 2015 me passionnent et qui me font voilà vous contredire un peu. Moi, je le vois pas comme une page blanche.
C'est l'expression que vous avez utilisée en conférence de presse.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout page blanche. On va revoir ces déclarations. On va trouver que moi, vous avez tort. Ouais. Je le dis en toute délicatesse parce que je m'aurais souvenu de dire quelque chose à laquelle je crois pas. Mais je dis que c'est pas page blanche parce que c'est un espace rempli d'une identité qui me passionne déjà. C'est la possibilité de confirmer cet amour du Festival d'Avignon et des valeurs et des principes et des grands débats, du dialogue et surtout de ce rassemblement populaire, de ce rencontre, de cette fête civique avec le public qui me passionne. Et alors, ce qui cette page très remplie permet, c'est que à chaque fois, on peut s'imaginer qu'il y a des morceaux encore blancs à remplir parce que ce travail de création artistique, de partage avec le public et de démocratisation culturelle qui est extrêmement fort et visible à Avignon, il ne s'arrête jamais.
Est-ce qu'Avignon, ça va changer ?
Avignon est, à mon avis, et là je le dis en toute humilité parce que ce que je connais du Festival d'Avignon demande encore de l'apprentissage. Je veux entendre le public, je veux entendre les équipes du festival, je veux entendre les gens qui le connaissent beaucoup mieux que moi et je veux apprendre surtout. Et c'est à cause de ça que je veux pas trop annoncer des grandes lignes de travail, etc. Parce que les grandes lignes de l'identité du festival, l'ADN du festival, on le connaît. Cette utopie qui est le Festival d'Avignon et qui doit continuer à être le Festival d'Avignon, parce que si ce n'est pas une utopie, ce n'est rien. C'est quelque chose à laquelle je veux contribuer. Et le début, c'est l'apprentissage et le privilège qu'on a vécu hier quand on entend les trompettes à la cour d'honneur, quand on entend la joie de se retrouver, se rassembler à nouveau, la liberté artistique, mais aussi la liberté d'être ensemble, cette puissance, c'est ce que je veux vivre cette édition, qui est une belle édition, la prochaine édition, et là on aura plein de temps pour parler des grandes lignes de l'avenir.
Et si je vous demandais si Avignon allait changer, c'est parce que hier soir, dans la cour d'honneur, on a entendu ça.
En avant, amis, emboîtez le pas. En avant, amis, emboîtez le pas. Et le futur inconnu vient avec l'aube. Tout va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. En avant, amis, emboîtez le pas. En avant, amis, emboîtez le pas. Elles ont changé de place. Avant, elles étaient là, là où vous êtes. Ce sont les vieilles chaises de la cour où le public s'est assis pendant des années pour voir tous les spectacles. Et maintenant, les chaises sont ici, invincibles sur scène. Elles sont des mémoires, elles sont le passé, elles sont l'avenir, elles ont changé. Et le futur, inconnu, vient avec l'aube. Tout va changer, ça va changer, ça va changer. En avant, ça va changer.
Voilà, à travers les chaises, hein, le lien entre le passé, le présent et le futur. Et cette chanteuse Manuela Acevedo qui casse tout de suite le quatrième mur, hein, Thiago Rodriguez, en faisant entrer le public dans le spectacle. Pour vous, Thiago Rodriguez, la Cerisée, c'est une pièce sur le changement.
C'est effectivement une pièce sur le changement et sur la façon dont les grands changements sociaux, collectifs, peuvent toucher et influencer nos vies intimes, quotidiennes. Et c'est le regard tendre, mais aussi acide de Tchekhov, clinique, on dirait, vers l'humanité qui est partagé dans ce texte absolument sublime qui est la Cerisée.
La pièce a été créée en 1904. En quoi vous semble-t-il actuel, contemporain.
On comprend très bien ce qui veut dire être face à l'incertitude de l'avenir. Je pense que les humains de 2021, partout dans le monde, mais sûrement les humains qui ont partagé la nuit d'hier, la soirée d'hier et les prochains jours avec nous à la Cour d'honneur, ils comprennent très bien, ils savent très bien ce que veut dire un grand bouleversement collectif qui nous rend à tous incertes face à l'avenir, comme si la possibilité d'imaginer un nouveau monde, un autre monde, un avenir, nous était volée. Et ça, c'est très présent dans le texte de Tchekhov et a traversé le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Et la pièce montre différents positionnements face à cette modernité, beaucoup de questionnements, des inquiétudes, des espoirs à travers 12 personnages et à travers la question de l'avenir, donc de la cerise, le joyau du domaine de Lioubov qui doit être vendu pour éponger les dettes. Et Lioubov, c'est la très attendue Isabelle Huppert.
J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres à pleine main, comme une folle. Je me suis mariée avec un homme qui n'était bon qu'à faire des dettes. Mon mari s'est tué au champagne. C'est affreux ce qu'il buvait. Et moi, pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. Nous sommes devenus amants. Et là, à ce moment précis, mon premier châtiment, comme un coup sur la tête, là, ici, dans la rivière. Mon petit garçon s'est noyé. Alors je suis partie à l'étranger. Partie complètement. Pour ne jamais revenir. J'avais fermé les yeux. Je fuyais. Éperdue. Et lui, il m'a suivi, grossier, impitoyable. J'ai acheté une villa près de Menton à cause de lui. Parce qu'il était tombé malade. Et là, pendant 3 ans, je n'ai plus connu de repos, ni le jour, ni la nuit. Mon âme s'est desséchée. Et puis cette villa, l'année dernière, on l'a vendue pour dette. Je suis partie vivre à Paris. Et là, il m'a dépouillé de tout. Il m'a quittée pour une autre. Il m'a abandonnée. J'ai essayé de m'empoisonner. Oh, c'est si stupide! J'ai tellement honte. Et brusquement, j'étais prise d'un tel désir de revenir en Russie, dans ma patrie, près de ma petite fille. Oh, mon Dieu! Ayez pitié, pardonnez-moi mes péchés, ne me punissez plus.
Comment est-ce que vous pourriez nous décrire le personnage de Lioubov, Thiago Rodriguez?
Vous voyez ces gens-là qui ressentent trop. Quand ils sont tristes, ils sont trop tristes. Quand ils sont joyeux, trop joyeux. Je ne parle pas de paramètres cliniques. Je parle des gens qui sont presque comme nous, les mortels, mais un peu au-delà, qu'ils ressentent trop et qu'on leur pardonne tout. Vous savez, ce genre de personnalité, je pense qu'on a tous des amis, quelqu'un dans la famille comme ça. Cette personne qui, quand ils font des erreurs, parce qu'ils ressentent trop, on leur pardonne en avance. On les soutient en avance, on pense à eux plus souvent qu'à la plupart du monde. Et ça, c'est Lioubov, d'une générosité immodérée, indolente, mais en même temps passionnée, et surtout entre deux mondes, entre le monde, le nôtre, et un monde du deuil, du chagrin, mais aussi du rêve, de la nostalgie. Et c'est quelqu'un qui habite ces deux mondes en même temps et qui nous fascine parce que c'est comme une héroïne tragique, mais aussi quelqu'un avec un pouvoir d'habiter deux mondes. Qui a un pouvoir que nous, voilà, les mortels, on n'a pas.
Et c'est un rôle que vous avez donc confié à Isabelle Huppert. C'est elle, d'ailleurs, je crois, qui vous a donné l'envie de monter Tchekhov à Avignon et de monter La Cerisée.
C'était Isabelle qui a réveillé l'envie endormie en moi de mettre en scène Tchekhov. Je savais que je le ferais un jour, je ne savais pas quand. C'est la rencontre avec Isabelle Huppert. nos voilà notre partage, nos discussions, qui nous amenaient beaucoup de fois à Tchekhov. Le fait que Isabelle, connaissant mon travail, me disait que elle avait la sensation que Tchekhov m'influençait énormément, alors que c'est vrai, Tchekhov, il est toujours, quand j'écris des textes, il est toujours à côté de moi, il me chuchote à l'oreille. Et là, quand j'ai découvert, en parlant avec Isabelle Huppert, qu'elle avait jamais joué Tchekhov et elle voudrait bien le faire, moi, je suis dit, ça me suffit pour me plonger dans un projet, si ça va permettre que tu joues finalement Tchekhov.
Elles sont trop riches, moi j'ai déjà fait deux attaques. Pour moi, c'est danse et crève. Et comme on dit, une fois dans la meute, aboie si tu veux, mais remue la queue. Hein. J'ai une santé de cheval, moi. Feu, mon papa. Un joyeux drille, Dieu et son âme, au sujet de nos origines. Il racontait comme ça, soi-disant, que l'antique lignée de Simon of Pichy, qu'elle remonterait à ce cheval que Caligula avait fait siéger au Sénat. Et voilà le malheur. Pas d'argent. Les chiens affamés n'a d'œil que pour la viande.
Thiago Rodriguez, on est dans une pièce chorale, hein, avec des moments solos très forts, très identifiés, qui donnent des tonalités extrêmement variées, avec en plus une distribution avec de comédiens d'âge, d'origine culturelle différente. Il y a beaucoup d'accents aussi, et tous expriment des visions du monde qui sont très différentes. Mais dès le début, on a une sorte d'esprit de groupe. Ça se sent d'ailleurs dès la scène d'ouverture, on va pas tout raconter, mais c'est vraiment très très présent. Il y a presque un esprit de troupe qui se dégage du plateau quand on regarde les comédiens jouer. Est-ce que vous diriez que le metteur en scène que vous êtes est une sorte de chef d'orchestre qui sert justement à accorder ces différents instruments?
Je suis très passionné pendant les répétitions par un travail qui est aussi, disons, social, de créer ce lien. En fait, de créer un vocabulaire qui est à la fois artistique mais aussi humain, un vocabulaire partagé, comme si on inventait une langue à nous, comme des enfants qui s'inventent leur langue à eux, une langue à nous pour le temps éphémère de la création d'une pièce. Alors ce ressenti de troupe, c'est quelque chose sur laquelle on travaille depuis le début. Parce que j'ai l'habitude de le faire, mais aussi parce que je travaille d'une façon très collaborative. J'ai pas d'image jamais de ce qui sera le spectacle. J'ai une image de ce qui sera la répétition de demain. La répétition, elle est là pour faire émerger des désirs, des urgences individuelles, parfois, de chaque des acteurs et des artistes dans l'équipe. Et je pense que le vrai travail du metteur en scène n'est pas de vraiment diriger, j'aime pas tellement ce verbe-là, mais de faire le lien entre ces désirs et urgences et donner un sens collectif à tous ces désirs et urgences pour qu'à la fin, on peut remplir les envies de chaque des personnes qui construisent le spectacle, mais aussi partager avec le public une pensée collective.
Et cette pensée collective-là, pour pouvoir la bâtir dans cette adaptation de La Cerisée, vous êtes appuyé sur l'esprit de Tchekhov, sur l'âme de Tchekhov, diraient certains?
On s'est beaucoup appuyé surtout sur la poésie de Tchekhov. Très vite, on a compris qu'il y a, quand on parle par exemple de l'âme de Tchekhov ou même de l'âme russe, parfois ça correspond dans nos têtes, dans notre imagination, à une tradition de mise en scène de Tchekhov qui commence avec Stanislavski au Théâtre d'Art de Moscou et à laquelle Tchekhov lui-même a participé. On le voit bien, les conventions dans les didascalies de Tchekhov. Mais cette tradition, elle a parfois développé un manérisme. Elle s'est transformée plutôt en manérisme et pas dans la vraie tradition de mise en scène. Et aussi, elle a influencé un peu tout le siècle les mises en scène de Tchekhov. Nous, on a voulu connaître cette tradition, mais après se libérer un peu et se plonger surtout dans les possibilités poétiques du texte. Toutes les couches de dramaturgiques, de pensées philosophiques, émotionnelles qu'on trouve dans chaque phrase de Tchekhov. Et après, faire notre théâtre à nous, avec notre liberté à nous, en dialogue avec la poésie de Tchekhov.
Avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'humour aussi, un peu plus de gaieté face à une pièce qui est souvent mise en scène de façon beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique peut-être.
Quand Tchekhov a vu la première en 1904, il a écrit à Olga Knipper, qui était sa femme et qui jouait aussi Lyubov, en disant « c'est trop triste ce qui fait Stanislavski avec ma pièce, pourquoi il fait une pièce en spectacle triste alors que le texte il est déjà trop triste, pourquoi il fait le quatrième acte en 40 minutes alors que moi je l'ai lu à voix haute, ça devait durer 20 minutes, nous on a bossé comme des fous, parenthèse, pour vraiment le jouer en 20 minutes comme Tchekhov le désirait.
Oui.
On est quand même, on sacralise pas le texte mais on aime Tchekhov. Mais ce qu'il disait c'est que cette pièce elle est tellement triste, elle est tellement sur la fin. Et il savait qu'il écrivait sa dernière pièce, qu'il faut la jouer avec de la joie.
Et la langue de Tchekhov, telle qu'elle est traduite, donc vous avez choisi la traduction de Françoise Morvan et d'André Markovitch, texte disponible d'ailleurs chez Actes Sud, comment est-ce que vous voulez être approprié avec vos comédiens ?
C'était très beau parce qu'on a eu la possibilité, le privilège, disons, d'avoir Françoise Morvan et André Markovitch avec nous pendant le début des répétitions. Et ça nous a donné encore une couche de recherche très importante. J'avais déjà partagé avec l'équipe beaucoup de recherches sur la tradition de mise en scène de cette pièce, sur le texte. Sur des recherches que j'avais fait aussi à propos des sujets qui sont en lien avec la pièce, mais avec Françoise et André, on a pu rentrer sur la précision, la machinerie de la ponctuation, du rythme, des suspensions, de chaque micro-décision de Tchekhov dans le langage. Et ça nous a permis aussi d'avoir une intimité avec ce texte qui permet exactement cette diversité d'accents, de traditions de jeu, de façon de s'approcher du texte, parce qu'on le connaît tous de la même manière, très délicate, très minutieuse.
Un dernier mot, Thiago Rodriguez, écoutons ce que dit Gaïev par la voix d'Alex Descas.
Quand on propose un grand nombre de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire que la maladie est incurable. Je réfléchis, je me triture les méninges, je vois beaucoup de remèdes, vraiment beaucoup. Et ça veut dire qu'au fond, je n'en vois aucun.
Est-ce que le théâtre, Thiago Rodriguez, peut être le, je dis bien le, remède aux maux de notre monde ?
J'hésite toujours à mettre encore plus pression au théâtre que la pression d'exister encore dans notre monde. Je pense que je réponds jamais à la question à quoi ça sert le théâtre. Je dis toujours qu'il existe, comme nous. Les humains, on existe. À quoi ça sert la fiction ? Elle est la fiction. Elle fait partie de l'espèce humaine. Après, il y a tellement de belles conséquences dans le monde du fait que le théâtre existe. Mais c'est la liberté artistique que je défends pour qu'il y ait du théâtre, pour que les gens peuvent faire ce qu'ils désirent du théâtre.
Merci beaucoup, Thiago Rodriguez. La cerise d'Anton Tchekhov, c'est dans la cour d'honneur du Palais des Papes jusqu'au 16 juillet, relâche les 7 et 13 juillet. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon.
Tenter de comprendre le monde grâce à la fiction, c'est sans doute l'un des grands enjeux du théâtre, mais qu'y a-t-il à comprendre quand justement quelqu'un commet l'injustifiable ? La pièce Les Détachés, présente en ce moment dans le cadre du OFF, explore cette thématique en retraçant le parcours d'un homme condamné, Fanny Blechner.
Leurs chaises sont face à face, mais leurs regards se cherchent, se fuient. Sur scène, un homme et sa mère qui lui rend visite en prison après 12 ans de silence.
Dans tous les scénars que je me suis fait, je te voyais m'apporter des madeleines. Me prendre dans tes bras, m'ébouriffer les cheveux, m'appeler mon lapin. Je suis un gros débile.
Et pour appréhender le parcours de vie de Jean jusqu'à la casse-prison, une succession de courtes scènes comme autant de flashbacks. Son interprète Brian Chivot est allé comme les autres membres de la troupe à la rencontre de détenus.
Quand on les rencontre en prison, on voit pas le monstre, quoi. On voit des mecs qui sont là et qui attendent.
Et c'est bien cette expérience qui est à l'origine du projet. Manon Torel a écrit le texte, un texte inspiré donc des ateliers menés dans plusieurs centres pénitentiaires de Normandie.
On a rencontré des hommes qui nous ont raconté des petites bouts de leur vie, de leur enfance. On a eu comme ça des bribes d'éléments du réel de leur vie. Et puis, il y a eu quand même un point commun qui est revenu souvent, c'est les carences familiales. C'est le père pas mal absent ou le père violent ou voilà. Il y a eu des choses comme ça, des points de récurrence qui sont venus et puis qui nous ont donné à voir un petit peu un paysage familial défaillant.
Comme dans cette scène entre le père et la mère.
Pardon, mais...
Ferme ta putain de grande bouche.
Mais j'ai dit mille fois pardon.
Mais tu comprends quand je te parle?
Allez, c'est bon, Michel. Elle dira plus rien.
C'est dégénéré, putain. Je peux pas lui faire confiance.
Oui. Elle est fragile, c'est pas nouveau.
Autant de personnages complexes, aussi bien la tante que l'on vient d'entendre, qui protège son frère violent, que la mère, jouée par Aurélie Edeline, dont les relations conjugales semblent torturées.
Et puis c'est une femme amoureuse, surtout. Et donc je pense que. Enfin, moi, je me raconte que quand Jean arrive, il n'y a peut-être pas forcément la place pour Jean.
La violence dans cette pièce est omniprésente, mais elle reste sourde ou suggérée, explique Yann Dacosta, l'un des trois metteurs en scène.
On arrive après ou juste avant ? Et on la montre pas parce que c'est difficile de représenter la violence sur un plateau. Mais par contre, ce qu'on voulait, c'est la faire sentir à quel point elle monte, à quel point à l'intérieur des personnages, elle s'empare d'eux.
Une violence insidieuse aussi. Ce sont par exemple ces humiliations publiques venant de sa mère alors que Jean est encore adolescent.
Jean, il a du porno dans sa chambre.
Mais ta gueule, toi !
Mais ça va, hein ? C'était pour dire que ça démange, c'était dans la conversation.
C'était pas dans la conversation, il n'y a pas de conversation. Il n'y a que toi qui parles, là.
C'est à travers ces relations familiales tumultueuses que se construit, bon gré mal gré, Jean, liant lui-même à d'étranges relations avec sa petite amie. Ici, il vient de l'enfermer dans un placard, lui annonçant ensuite qu'il était plein d'araignées, puis que c'était finalement une plaisanterie.
C'est vraiment con, c'est pas des blagues drôles, ça.
Désolé.
Faut pas me faire ça, j'ai cru que j'allais crever, je te jure.
T'étais complètement hystérique.
Bah tu parles. Non mais sérieux? Moi, je frise l'AVC et toi, tu bandes.
Une scène qui en préfigure d'autres, le comportement de Jean évolue, sa gestuelle aussi. Regard intense, mais les yeux écarquillés, son corps se tendant, se disloquant. Stéphanie Chen a également participé à cette mise en scène.
Donc en fait, il y a toujours un va-et-vient entre une parole qui pourrait presque faire penser à une parole quotidienne, mais qui n'en est pas une, et un investissement physique à la fois sur des corps qui sont travaillés et sur des corps qui s'échappent comme ça dans des choses qui sont moins réalistes pour qu'on arrive à rentrer de manière plus kinesthésique dans ce que vivent les personnages en fait.
Un instant marquant à ce titre, mère et fils face à face, se frappant le torse. Jamais le crime en question ne sera évoqué, car ici on le comprend, c'est bien d'attache dont il est question.
La pièce Les Détachés est donc à voir à partir de demain dans le cadre du Off d'Avignon jusqu'au 29 juillet. Ça se passe au Théâtre 11 à 22h15, sauf les lundis.
Derrière ton abo, qu'est-ce qu'il y a ? Qui est cette femme ? Auprès de moi, tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour derrière ce
comédien David Jonquière en interprète de ce tube de Johnny Hallyday, un des moments les plus touchants, les plus délicieux, à la fois drôle, émouvant et signifiant de la pièce dont nous allons parler à présent et que vous présentez à partir de demain dans le Festival Off. Olivier Lopez, bonjour.
Bonjour.
Rat Budoru, poupée d'amour, c'est le titre. Ça se passe au Théâtre des Halles à 14h jusqu'au 26 juillet, relâche cette fois le mardi. Et David Jonquière, en blouson de rocker et tout tatouage dehors, chante donc en s'adressant à cette poupée d'amour qui est au cœur de cette pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène. Comment vous est venue l'idée justement de placer une love doll, comme on dit, pour utiliser l'expression anglaise, au cœur de cette pièce?
Ben, je trouvais l'objet assez fascinant, je trouvais l'objet inquiétant. Il était le sujet de nombreuses contestations, d'inquiétudes sur l'arrivée de ces poupées, de ce qu'elles signifiaient sur la place des femmes. Et j'avais le sentiment que c'était aussi un objet théâtralement très très juste, quoi, autour duquel on pouvait se mettre à raconter beaucoup beaucoup de choses. Et donc on a commencé à acheter une poupée, on a commencé, c'était le premier acte, et à travailler avec des acteurs, à créer une société de réflexion autour de cet objet pour essayer de construire une pensée, un récit, une histoire, quelque chose qui prenait sens par rapport à l'angoisse que l'on pressentait de l'objet, parce que c'est un objet qui fait véritablement peur et en même temps qui nous fascine.
Et cette poupée d'amour, vous l'avez placée au centre d'un conflit social et d'un conflit familial. En même temps, c'est elle qui va peut-être sauver l'usine dans laquelle travaille Nora. C'est un nouveau produit, hein, qui est un peu le produit de la dernière chance pour ce site industriel en crise qui a été racheté par un groupe japonais. Alors Nora, c'est l'une des porte-parole des salariés du site. Elle s'est beaucoup démenée, hein, pour que les emplois soient sauvés. Mais cette solution, c'est moins qu'on puisse dire, ne l'enthousiasme pas beaucoup, ni en tant que féministe, ni en tant que future mère de famille.
Des hommes ont inventé ces poupées parce qu'ils pensent pouvoir résoudre un problème qui s'appelle la femme. Moi, je suis une femme, je ne considère pas que je sois un problème. Nous avons mis des siècles à ne plus être la chose des hommes. Ces femmes objets nous renvoient une image de la femme totalement soumise au seul désir des hommes. Nous n'avons pas lutté pour nous émanciper, avoir le droit de travailler et maintenant accepter de collaborer à la fabrication de ces objets. Nous n'allons pas contribuer à anéantir notre image, notre place dans la société. Ce n'est pas possible de nous demander ça.
Et c'est ainsi que Nora, jouée par Laura Deforge, s'adresse au micro, hein, à ses collègues en lutte et à la salle. En même temps, tout de suite, hein, le quatrième mur, là aussi, c'est un peu comme dans le spectacle de Thiago Rodriguez, tout de suite, le quatrième mur, il est brisé, Olivier Lopez.
Oui, c'est important pour moi. J'aime bien qu'on soit en dialogue avec la salle. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des scènes qui soient écrites pour discuter avec la salle et on donne un rôle au spectateur.
Oui, parce que là, on a vraiment l'impression d'être d'être des membres du piquet de grève, quoi, d'une certaine façon. Hein.
Ouais, ouais,
d'être
bon.
Aux côtés de Nora pour défendre cette entreprise qui lui tient tant à cœur.
C'est une belle manière de plonger dans l'histoire. C'est que d'un coup, on devient acteur. On se dit, ah bah oui, alors qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est vrai qu'il nous arrive quelque chose à ce moment-là. Et finalement, les spectateurs sont d'accord pour devenir des acteurs d'un spectacle, sont d'accord pour jouer.
On le sait, on leur demande que ça.
Oui, je crois aussi.
Oui, et c'est vrai que on plonge avec Nora finalement donc dans ce dilemme éthique, hein, faut-il accepter de tout produire pour sauver sa propre boîte ou est-ce que bah il faut rester fidèle à ses convictions, à son éthique, au féminisme en l'occurrence notamment, au risque de tout perdre. Vous avez la réponse vous-même Olivier Lopez ou bien vous ne faites que poser la question?
Mais c'est une question que je me pose qui me poursuit finalement et c'était quelque chose qui est insoluble.
La fin justifie-t-elle les moyens, finalement? C'est un petit peu ça, la question qui est posée à travers cet exemple-là.
C'est notre époque qui nous raconte ça sans arrêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut accepter tout parce que le capitalisme est plus fort? Comment on fait quand on dialogue avec Poutine? Comment on fait lorsqu'il faut sauver coûte que coûte des emplois et qu'on a face à nous des repreneurs qui sont pas ceux qu'on aurait rêvé? J'ai l'impression que c'est des cas de conscience politique qui sont omniprésents dans notre société contemporaine. Et qu'en fait, non, il n'y a pas d'issue. Je crois que c'est une des forces du théâtre que de se retrouver autour de grandes questions. C'est d'essayer de les exorciser, de se dire, tiens, alors finalement, on en pense quoi de tout ça? On est ensemble, on rêve ensemble à quelque chose pendant une heure et demie. Et on en sort... pas forcément avec les solutions, mais on en sort un peu plus fort. On a appris de la dérision, on a ri ensemble de ces choses qui nous inquiètent et qui nous font souffrir. Et j'ai l'impression qu'on est plus fort et que c'est plus facile d'affronter la vie ensuite.
Donc, premier dilemme éthique, un dilemme qui va encore se compliquer davantage quand le compagnon de Nora, qui s'appelle Thierry, qui est joué par Alexandre Chatelain, va accepter le poste que la direction lui propose.
De toute façon, on n'a pas vraiment d'alternative, Nora. On doit prendre le travail où il se trouve.
J'organise des réunions publiques pour convaincre les salariés qu'il faut se mobiliser, pour obliger la direction à trouver d'autres solutions. Et pendant ce temps, toi, tu acceptes un emploi de cadre pour vendre ces saloperies.
C'est un travail intéressant. Avec des responsabilités, c'est beaucoup mieux rémunéré. Tu veux qu'on achète une maison? C'est important, ça aussi. Oui, j'ai envie de progresser dans la vie. Je veux pas rester toute ma vie responsable d'atelier. On me propose d'intégrer la team marketing, là, ok? La team marketing. J'entre dans l'équipe de direction, Nora. Je vais apprendre des nouvelles choses. Je vais valoriser mes compétences.
Et tu ne comprends même pas qu'ils te manipulent? qu'il te propose ce poste pour que je me taise.
Bref, on l'a compris, hein, Olivier Lopez, la tension sociale au sein de l'entreprise va se doubler d'une tension familiale au sein de ce couple. Est-ce que vous avez une défiance, Olivier Lopez, vis-à-vis du management capitaliste, pour faire simple?
Absolument pas. Je suis une formation d'ingénieur, donc j'ai fait du management, je sais ce que c'est un petit peu. Et j'en vois bien le fond du problème. C'est vrai que quand on est la problématique, c'est de ramener de la productivité. C'est ça la problématique du management. C'est comment rendre les gens plus productifs. Et on s'aperçoit que rendre les gens plus productifs, c'est pas forcément les rendre plus heureux.
Mais lorsque Thierry accepte le poste, il le fait par ambition personnelle, mais il le fait aussi pour Nora.
Évidemment, c'est ça qui est tragique. C'est ça qui est. C'est pas juste un égoïste. C'est quelqu'un qui aime sa femme, qui aime l'enfant à venir, qui veut grandir, faire voir grandir sa famille, lui assurer un avenir. Il y a une vraie quête dans cela qui est tout à fait louable. Et en même temps, il est pris au piège de ses contradictions et de ce qu'il est obligé de faire pour y arriver. Et là encore, j'ai pas de jugement sur lui. C'est un personnage que je défends. J'essaie de défendre tous les personnages dans cette histoire. Il n'y a pas de méchant. Parce que je pense que sur le fond, ça n'existe pas. La méchanceté, il y a juste des situations qui sont compliquées.
Ces deux comédiens qui interprètent donc Nora et Thierry, Laura Desforges et Alexandre Chatelain, vous les connaissez bien. Ce n'est pas la première fois que vous jouez avec eux. Est-ce que votre façon de les diriger évolue en fonction des rôles, en fonction aussi de la connaissance que vous avez de leur vie, de leur existence en tant qu'être humain et pas seulement en tant que comédien?
C'est une grande aventure parce qu'une partie de mon travail, c'est aussi d'accompagner des jeunes acteurs. Et Laura et Alexandre, ce sont des acteurs que j'ai rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années, alors qu'ils étaient de tout jeunes acteurs. Et on a fait beaucoup de choses très différentes. On a fait notamment un spectacle de clown ensemble, Bienvenue en Corée du Nord. Donc, on était dans une forme théâtrale qui était très très éloignée. Donc on prend des risques, on s'aventure sur des terrains nouveaux. Et quand je dis on prend des risques, on prend des vrais risques d'aventure. Quand on était parti en Corée du Nord, on était parti ensemble, on avait quand même un peu peur d'aller en Corée du Nord. C'était pas si évident cette histoire-là. Mais on se donne des défis pour essayer de surmonter des peurs, pour essayer de grandir ensemble. Et je pense que c'est ça qui nous lie, c'est une quête un peu métaphysique, spirituelle, par rapport à un engagement qui est notre engagement au théâtre, qui est aussi notre religion. Après, j'ai pas de manipulation moi dans tout cela. Je les connais bien et en même temps, je vous dirais, ils gardent pour moi énormément de secrets. Et j'essaie, mon travail de metteur en scène, souvent, je me dis que c'est de jamais abîmer le secret des acteurs. C'est-à-dire, c'est de les aider à venir au plateau et à emmener ce qui fait leur fragilité, ce que nous ne comprenons pas, qui nous fascine. Et surtout, de jamais abîmer ça.
Mais jusqu'où peut-on aller, justement? Comment est-ce que l'on sent qu'il faut s'arrêter là, ne pas aller plus loin, ne pas les bousculer davantage?
Les choses, ce sont les acteurs qui posent les actes. C'est pas les metteurs en scène qui disent je veux que tu fasses ça ou j'ai comme disait Thiago, j'ai imaginé, il fallait que ça se passe comme ça. Je suis de la même école, je crois. Les jours de répétition sont des jours d'invention. On se projette dans ce que nous allons faire et parfois on va trop loin. Et heureusement qu'on va trop loin en répétition. On se dit non, ça il faut pas qu'on le garde. C'est pas juste, ça nous éloigne de notre sujet. Mais ça, ce n'est possible que dès lors qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup de confiance les uns envers les autres.
Alors, vous le disiez, Laura Desforges et Alexandre Chatelain sont des comédiens que vous connaissez depuis une dizaine d'années, disiez-vous. Et donc, ils forment ce couple qui a, en plus des inquiétudes sociales à gérer, en plus de l'avenir de leur futur enfant à gérer, un autre problème, et il n'est pas simple celui-là non plus, c'est la maladie de Louis. Louis, c'est le père de Thierry, il vit avec eux, hein, dans la même maison, et il souffre d'une maladie dégénérative. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ajouter cette dimension-là à la pièce? Elle était vraiment indispensable?
Oui, parce que très vite, les objets sont, c'est les fameuses poupées. Quelque chose m'avait interpellé, c'est que j'avais vu qu'elles étaient l'objet de recherche thérapeutique, notamment avec des poupons qu'on avait confiés à des femmes qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et puis,
elle se remettait à parler, à discuter. Et alors c'était assez formidable parce qu'auparavant elle bougeait plus. Donc il y avait un peu, on criait un peu au miracle. Et en même temps c'était déroutant pour les familles parce que la personne, l'enfant qui était nommé, personne ne le connaissait. C'est-à-dire c'était un nouvel enfant, une nouvelle histoire et presque une nouvelle personnalité qui s'inventait au de faire cet objet en silicone. Donc dès cette étude qui avait été menée dans une EHPAD à côté de Caen m'avait trotté et m'a amené à imaginer qu'on pouvait avoir l'idée un peu saugrenue, j'en conviens, de donner une love doll à un monsieur un peu âgé pour qu'il retrouve de quelqu'un à qui ramener de la tendresse, s'occuper de quelqu'un. Et il y a beaucoup de fantaisie dans ce spectacle. En tout cas, j'essaie qu'il y ait des choses qui soient totalement insolites.
Oui.
C'en était une. Et en fait, c'était aussi une façon de se dire, mais oui, si jamais ça pouvait apporter quelque chose. Parce que bon, les critiquer sur toute la dimension sexuelle, inquiétante, j'ai envie de dire, c'est assez facile. Mais quand la poupée, tout à coup, devient utile et ramène un espoir... la situation devient vraiment, vraiment compliquée.
Ouais, et Thierry va effectivement offrir une poupée d'amour à son père en espérant que ça va l'aider. Alors, il y a plusieurs éléments parce qu'il est toujours très ambigu, hein, Thierry. Il croit en la promesse commerciale de la poupée d'amour. Il espère évidemment que son entreprise, dont il est donc encore une fois l'un des responsables marketing, va pouvoir tirer économiquement son épingle du jeu. Mais il croit aussi en cette promesse thérapeutique. Sauf que quand il présente la poupée à son père, eh bien, petit détail va vite lui échapper.
Toi, papa, tu veux l'appeler comment ?
Madeleine.
Non, 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 non.
Non,
non, non, non, papa. Tu peux pas l'appeler comme ça, quand même.
C'est un peu exagéré.
Non, non, Laetitia, c'est bien.
Je trouve que ça va pas. Il faut au moins respecter la mémoire de Madeleine, s'il vous plaît.
Oui, oui, Louis, il faut que vous fassiez la différence entre la mémoire
de... Je veux l'appeler Madeleine.
Non, papa, non. Tu l'appelles pas Madeleine. C'est le prénom de maman, là. Ok ? Tu l'appelles Sandra ou Adélaïde, j'en ai rien
Docteur,
à foutre. C'est pas Madeleine.
Je veux l'appeler Madeleine.
Bon. Madeleine, je suis ravi de faire votre connaissance.
Mais non !
Laissez-le faire.
Je peux la toucher, la Madeleine ? On dirait de la peau. C'est très étonnant. Et on dirait qu'elle va parler.
Ah, c'est Didier Denec hein, qui incarne le personnage de Louis et vraiment, je l'ai vraiment trouvé fabuleux parce qu'il dégage cette humanité qui est très émouvante et on a toujours envie à la fois d'être en empathie avec lui et en même temps parfois on a envie de rire aussi parce qu'effectivement il y a parfois un côté complètement fou hein, ce que vous proposez sur la scène et on est en permanence justement à naviguer justement entre ces différents sentiments et c'est aussi pour ça je pense que la pièce est vraiment réussie, on est un peu attendri, un peu gêné en fait. Dans cette relation naissante entre Louis et la poupée qu'il a donc baptisée du nom de sa femme décédée, d'autant que c'est pas un objet comme les autres, hein, vous le disiez vous-même, Olivier Lopez. Pour vous, dans la pièce, la poupée d'amour, c'est un personnage ou c'est un accessoire ?
Ah, c'est un personnage. C'est vraiment la cinquième comédienne du groupe. Après, c'est plus intéressant, ça nous coûte un peu moins cher, parce que c'est un investissement au début, mais après, on n'a plus de cachet à donner au fil des représentations. Mais non, elle joue vraiment, elle joue son rôle, elle est Madeleine. Et puis, ce qui est déroutant avec ces objets-là, même si je prends le soin de la qualifier en termes d'objet, c'est que nous, on l'appelle Madeleine depuis un moment, et on la personnifie, parce qu'en fait, je crois que même les spectateurs, dès qu'ils la découvrent, il la personnifie et il lui prête tout de suite des sentiments. Et il lui prête tout de suite, si on est violent avec elle, il le ressente comme quelque chose de violent. Et c'est notre capacité très humaine d'anthropomorphiser notre environnement qui nous piège. Ce n'est que quelques kilos de silicone, mais pour nous, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et c'est un objet de vénération.
Alors, dans la première partie de la pièce, on en parle beaucoup de cette poupée d'amour, et on la voit pas. Et quand elle apparaît sur scène, on la voit d'abord et pendant très longtemps de dos, avant qu'elle demande son visage. Pourquoi cette gradation, ce choix de mise en scène, Olivier Lopez ?
C'est pour conserver le mystère et puis pour qu'on puisse, en tant que spectateur, fantasmer, la rêver.
l'imaginer, se construire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on la regarde dans les yeux, ses yeux sont morts. Elle est vide. Et en fait, notre travail à nous, qui faisons du théâtre, c'est un peu de vous faire croire qu'il en est, que c'est très très différent. Et finalement, cet objet de mort, parce que quand il est mis en lumière de façon très froide et très directe, eh bien, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien. Ça fait une heure qu'en fait on fait voyager les spectateurs, ou une heure et quart qu'on fait voyager les spectateurs dans beaucoup d'espoir, et que depuis une heure et quart on pense qu'il y a vraiment quelqu'un de vivant qui est au plateau, quoi.
Alors le dispositif scénique est assez impressionnant parce qu'il y a aussi un dispositif vidéo, hein. On est en fait à la croisée du théâtre et du cinéma, avec des projecteurs apparents sur des portants à roulettes, avec des caméras aussi portées alternativement par des cadreurs et même parfois par les comédiens eux-mêmes. Pourquoi ce recours à la vidéo, Olivier Lopez?
C'est quelque chose qui est venu dans le travail comme une envie, parce que j'avais envie qu'on aille assez loin dans des choses très intimes. On parle de la famille, on parle du couple, des petites choses, des choses que le cinéma peut saisir et qu'il est souvent difficile de donner au théâtre. Et depuis un moment, au théâtre, on utilise les micros qui nous permettent de faire d'entendre des chuchotements, d'entendre des choses qui sont pas forcément criées. Et là, le travail sur la caméra nous permettait le même intérêt de détail, et permettait aux acteurs d'aller plus loin.
Ça fonctionne un petit peu comme une loupe, quoi.
Exactement.
Au niveau des traits du visage, au niveau des yeux, au niveau de la bouche.
Oui, puis c'est très bluffant aussi, je trouve, toujours de découvrir. On a un axe qui est celui du spectateur quand on est au théâtre. Et avec les caméras, on propose aussi souvent d'autres axes, d'autres regards qui se croisent et qui se complètent et qui nous donnent à comprendre du sujet les choses autrement. Souvent, on ne voit jamais, très rarement au théâtre en tout cas, les acteurs de dos se parler, se confesser de quelque chose. Ici, les caméras nous permettent par exemple ce type de procédé. Et c'est vrai que c'est super intéressant, c'est super riche en termes de langage. Ça nous offre en tout cas des possibilités qu'on n'aurait pas si on ne les avait pas.
Ça veut dire que ça modifie le jeu des acteurs.
Oui, tout à fait. On a fait un gros travail avec Jonathan Perru, qui est réalisateur, qui nous a accompagnés durant les répétitions. Parce qu'en même temps qu'on a fait le spectacle, on a aussi fait un film du spectacle. On l'a créé, ce spectacle devait sortir lors du premier confinement. Il a été arrêté. Après le premier confinement, je me suis dit, on va faire comment? On a rendez-vous dans quelques mois, mais j'entendais partout parler d'un deuxième confinement. Et donc, je suis allé voir les gens du cinéma et j'aurais dit, il faut venir travailler avec nous. On va avoir besoin des caméras, on va avoir besoin à la fois de conserver ce qui fait la spécificité du théâtre dans sa volonté d'offrir un récit continu en direct, et en même temps d'en proposer une version streamée. Donc, on ne le fait pas à Avignon, mais le spectacle, au départ, on l'a créé avec ces deux caméras au plateau qu'on a conservées, et d'autres caméras en salle, et un autre réalisateur, et une autre personne au son. Et du coup, on a créé deux objets qui sont pour moi complémentaires et qui sont aussi assez différents, qui est le stream du spectacle, que j'appelle pas captation parce que je trouve le mot ambigu, et puis le spectacle que l'on peut maintenant découvrir enfin en salle.
Merci beaucoup, Olivier Lopez. Rabut de rue, Poupée d'amour, à partir de demain donc et jusqu'au 30 juillet à 14h, relâche les mardis au Théâtre des Halles, ici à Avignon. Restez avec nous sur RFI. Dans un instant, retour à Paris pour l'info. On se retrouve demain, toujours en direct de l'Hôtel d'Europe et du Festival d'Avignon, In et Off. Demain, les enfants seront à l'honneur avec le premier spectacle jeu de public du In, Bouger les lignes de Bérangère Ventusso. À l'honneur et un petit peu à l'horreur aussi, avec Sale gosse de Miraela Mikhailov, mise en scène par Fabio Godinho, dans le off cette fois-ci. À demain donc, et vous m'en direz de nouvelles. RFI, la sélection.